Je me souviens.
Je me rappelle. Tu te souviens ?
Elle se rappelle.
Elle se souvient.
Il se rappelle.
Ça a été comme une lumière dans la nuit, un flash. Nous avons tous vécu un événement marquant qui a été un accélérateur de vie.
Je me souviens, je me rappelle.
Bonjour amis auditeurs, Jean-Jacques Chavanne avec vous pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je suis avec Daniel. Alors Daniel, il est policier, mais il est également sauveteur. Sauveteur, c'est une expérience qui vous a changé, Daniel ?
Oui, ce sauveteur, c'est... Je ne savais pas qu'on pouvait faire les deux, policier et sauveteur.
Alors, qu'est-ce que ça a changé pour vous, hein, qui êtes policier ?
Alors, tout a changé sur mon approche des gens, sur les relations qu'on pouvait avoir avec les autres personnes. Ça, c'est très riche, je me suis enrichi depuis que je suis policier et sauveteur.
Alors, comment vous êtes enrichi ? Comment ça s'est passé, en fait ?
Alors, j'ai fait plusieurs années en tant que policier, et un jour, j'ai voulu me spécialiser comme maître-nageur. J'étais affecté sur une plage, et j'ai été confronté à des situations de mort où j'ai dû intervenir directement sur des personnes pour les maintenir en vie, pour essayer de les maintenir en vie. Et c'est à partir de ce moment-là que tout a changé.
Alors, tout a changé, mais qu'est-ce qui a changé ?
Alors, ce qui a changé, c'est que il a fallu à un moment donné que je change ma mentalité, tout simplement parce que j'étais devenu un homme, mais un homme ouvert aux autres.
Ce qui n'était pas le cas auparavant ?
Alors, dans la fonction de policier, à l'époque, on n'était pas très ouvert. On n'avait pas d'empathie, ou on limitait notre empathie envers les autres, pour se protéger, tout simplement. Mais les mentalités ont changé depuis.
C'était une question d'image, alors ?
Oui, on ne pouvait pas se permettre d'avoir une image de faible, autant auprès de la population, mais également auprès de nos collègues. Il fallait montrer qu'on était dur, et pour être dur, il fallait être hermétique à toutes les émotions que la société pouvait nous renvoyer.
Alors donc, vous êtes confronté à la mort, vous êtes envoyé sur une plage, vous êtes confronté à la mort, vous avez sans doute une première expérience, comment ça se passe ?
Ouais, je me souviens de cette première expérience, hein, une personne qui était noyée, qui était sortie de l'eau, et on est intervenu pour essayer de la ranimer. Elle était en arrêt ventilatoire, cardio-respiratoire, et on l'a maintenue jusqu'à l'arrivée du SAMU. Elle a été prise en charge ensuite par le SAMU, qui l'a déclarée à un moment donné décédée. C'était la première fois que j'intervenais directement sur une personne qui n'avait plus de vie. Et j'avais ce sentiment d'échec. Échec parce que mon but, c'était de la maintenir en vie, et je n'ai pas réussi à le faire.
Alors, comment ça s'est passé dans votre tête après ? Est-ce que vous avez été aidé ?
Alors, comment ça s'est passé dans ma tête ? Après ce sentiment d'échec, j'étais angoissé. Et à l'époque, il n'y avait pas de suivi. C'est-à-dire qu'on m'a laissé avec cet échec et j'ai continué à errer dans mon travail sans prise en charge, sans écoute. Et pourquoi ? Parce qu'on était toujours sur cette dynamique. Un fonctionnaire de police est fort et il faut qu'il assume.
Alors, pour sortir de cette position d'échec que vous aviez dans vos têtes, comment vous avez fait ?
Alors, l'expérience m'a amené dans un premier temps à me protéger de ça. Il fallait que je me protège parce que l'émotion était forte, hein, à ce moment-là. Et ensuite, j'ai pris des responsabilités au sein de la police qui m'a permis de mettre en place une autre approche par rapport à la mort et par rapport aux situations tendues, extrêmes qu'on peut rencontrer.
Racontez-moi.
Par exemple, je suis maintenant chef d'équipe, je gère des fonctionnaires de police avec moi, et lorsqu'on est confronté à une situation difficile, j'ai mis en place ce qu'on appelle des débriefings. Ces débriefings, c'est un suivi après coup. C'est-à-dire qu'on est tous angoissés sur des situations, et notamment, on peut être confronté à des situations d'échec, et il ne faut surtout pas qu'on reparte avec cette angoisse-là.
Donc, les mots ?
Les mots, on se regroupe, on échange, on axe les améliorations qu'on pourrait avoir pour mieux faire la prochaine fois, et ça, on en a besoin. Et c'est surtout, on s'exprime, et ça, on en a besoin.
Donc, c'est ne pas avoir peur d'accepter et de dénoncer sa vulnérabilité.
Alors, à l'époque, il ne fallait surtout pas montrer une vulnérabilité. À l'heure actuelle, on a le droit de le montrer, cette vulnérabilité, tout simplement parce que on est touché, on est impacté autant que les autres et la société a changé à ce niveau-là.
Donc maintenant, le fait d'agir en connaissance de cause, en connaissant vos vulnérabilités, ça vous rend peut-être plus fort également dans l'action.
Alors ça me rend plus fort probablement, mais c'est mon expérience qui m'amène là, c'est surtout ça. Ça me rend plus fort et puis ça me permet d'anticiper. On parle souvent de mal-être du policier, du stress et parfois même du suicide du policier. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu d'écoute probable derrière tout ça. Et moi, je ne veux pas qu'il y ait un sentiment d'échec au sein de mes équipes. Je favorise le dialogue et ça nous permet de mettre en place des stratégies derrière pour pas que ce soit négatif pour chacun.
Alors, revenons peut-être à votre expérience de sauveteur qui... À démarrer ce changement pour vous. Et je suppose que donc après que vous ayez eu à digérer donc ce premier événement, vous avez eu aussi des événements qui ont été favorables, où vous avez sauvé des gens.
Alors ça, c'est la satisfaction, oui. Quand je suis intervenu sur des personnes où je n'ai pas pu les réanimer ou les maintenir en vie, hein, mais j'ai aussi des moments de bonheur avec mes équipes, justement. Ces moments de bonheur, alors c'est la particularité de notre spécialité, hein. Ces moments de bonheur, c'était faire revenir à la vie des personnes qui étaient en arrêt et les voir partir pour une consultation, mais ils sont conscients et ils nous parlent. Et ce qui est contradictoire, c'est que ces gens-là, généralement, on ne les revoit plus jamais. Ils ne reviennent pas nous voir pour nous remercier, ils ne viennent pas nous voir pour avoir une reconnaissance quelconque, mais nous, on le sait, on n'a pas ce retour-là.
Comment vous l'expliquez ?
Eh bien, parce que c'était une situation d'urgence, une situation dangereuse et une mauvaise expérience pour la victime. Et elle ne veut surtout pas être confrontée une nouvelle fois à cette mauvaise expérience, et nous, les sauveteurs, on représente cette mauvaise expérience.
Donc, elles veulent gommer le passé. Et donc, ça vous l'avez compris. Ça fait partie du travail que vous avez réalisé. Et donc, ce travail, maintenant, vous permet d'être en première ligne, mais pas uniquement dans le sauvetage, donc en tant que maître-nageur.
Non, maintenant, j'exerce plus en tant que maître-nageur sur les opérations. J'exerce mon métier de policier à plein temps. Par contre, les situations se présentent aussi dans le cadre de mon travail. Donc, j'ai eu à faire des expériences où des personnes étaient inanimées, inconscientes et en arrêt ventilatoire, que j'ai pu ramener à la vie également dans le cadre de la police secours.
Oui, donc cette première expérience de sauvetage vous a servi pour votre vie de policier ensuite également.
Mais bien sûr, parce que depuis cette expérience, je me suis beaucoup plus ouvert aux personnes, hein, mais également à me spécialiser dans ce secours à personnes qui me permettent d'être très à l'aise grâce à la maîtrise des techniques. Et puis, je suis devenu une référence au sein justement de mes équipiers qui savent très bien que je gère très bien ces situations et ils ont entièrement confiance en moi. Et je dois leur montrer justement que cette confiance se gagne dans l'expérience.
Donc cette confiance, ils l'ont parce que sans doute vous les écoutez, vous savez prendre les décisions, mais vous m'avez parlé tout à l'heure également du fait que vous avez été confronté à des personnes qui voulaient se suicider. Est-ce qu'il ne faut pas être un peu une éponge quand on est policier également ?
Le policier est une éponge, hein. Il éponge les maux de la société, hein. Nous sommes en première ligne. Lorsqu'une personne veut se suicider, lorsqu'on arrive à établir un dialogue, il faut forcément avoir de l'empathie. Si on n'a pas d'empathie, il n'y aura pas de dialogue et l'acte peut être mené jusqu'au bout. Donc les premiers intervenants, c'est souvent la police secours. Nous, on est confrontés à ça et notre but, c'est de maintenir en vie les personnes.
Voilà, donc vous êtes une éponge. Hein, c'est ce que vous êtes en train de me dire, vous ressentez ce qui se passe. Donc notre société est confrontée à différentes crises actuellement, donc on ne parle que de ça dans les médias d'ailleurs, on a l'impression que tout explose, enfin, les situations sont souvent critiques. Auparavant, vous étiez au contact des populations, on parlait des policiers de proximité, est-ce que ça existe encore ?
Non, la police de proximité n'existe plus. On veut voir des uniformes dehors, mais on n'a plus de proximité avec la population. C'est bien dommageable, hein, parce que moi, j'ai connu la période où on avait des îlotiers. Ces îlotiers étaient en contact permanent avec les commerçants, la population. Ils savaient récupérer les informations et ils savaient les retranscrire dans nos services, ce qui pouvait nous permettre de mettre en place des actions préventives. À l'heure actuelle, on peut plus le faire, on n'a plus les mêmes informations.
Donc vous ne pouvez plus être proactif, dirons-nous ?
Non, on est plus dans la répression que dans la prévention. On est obligé de faire cesser des situations qui dégénèrent, alors qu'à l'époque, on pouvait anticiper ces situations-là.
Vous pouviez empêcher le feu d'arriver ?
Alors, on savait les prévenir en tout cas. Les empêcher sur des actes déterminés, c'était plus compliqué forcément. Mais grâce à tout ce qu'on pouvait mettre en place en amont, ça pouvait éviter des situations catastrophiques. Ouais.
Daniel, vous me parlez de situations où il y a beaucoup de tensions, où vous avez beaucoup de problèmes à résoudre. Comment vous faites ? Pour évacuer toute cette pression, toute cette tension qui peut être présente en vous.
Lorsque je travaille, c'est vrai qu'il faut se mettre une carapace. La première carapace, ça va nous permettre de nous protéger nous-mêmes. Alors, il est vrai qu'on emmagasine énormément d'énergie négative par le rythme qu'on peut avoir, par notamment les maux de la société. Hein. Comment je fais pour canaliser tout ça ? Moi, à titre personnel, j'en parle, je m'ouvre aux gens.
Canaliser les maux par les mots ?
Par les mots, exactement. J'en parle à ma famille, à mes proches. Lorsque une nuit a été agitée, j'aime en parler le lendemain avec eux pour en débattre, pour voir, pour me conforter dans ma position et puis pour évacuer certaines tensions que j'ai accumulées aussi.
Donc là aussi, ne plus avoir peur de sa vulnérabilité.
Eh ben c'est là où la société a changé. On est tous vulnérables. Même le policier est vulnérable et on le voit. On a besoin de parler, nous aussi. On a besoin d'évacuer. Cette évacuation, on le fait différentes manières. Je m'ouvre auprès de ma famille, mais j'ai un autre axe aussi. Hein. Je fais beaucoup de sport. L'histoire d'aller courir après une intervention difficile, lorsque je suis en repos, ça me permet de réfléchir et d'avoir ce contact avec la nature qui va me permettre de sortir de ce cadre-là. Je m'oxygène, j'aère.
Quel est votre espoir pour demain, en tant que dans votre métier, dans votre fonction ou en tant qu'homme ?
L'espoir, c'est que on rétablisse ce dialogue avec la population. Je pense que c'est un axe important à développer au sein de la police. La répression ne peut pas mener toutes les politiques. C'est pas possible. On peut pas l'être.
D'accord. Donc une volonté de dialogue, et c'est sur cette volonté de dialogue qu'on termine cet entretien. Merci pour votre participation à cette émission. À bientôt, et à bientôt à vous, amis auditeurs. Amis auditeurs, si vous avez un souvenir marquant que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à nous le faire savoir en contactant Radio B. À bientôt.